Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les coupures d'électricité continuent au Venezuela, accentuant les pénuries, pénuries d'eau notamment, vous l'entendrez, alors que le président Nicolas Maduro change de ministre de l'énergie.
Lui a officiellement changé tout le gouvernement et promet de démissionner. Abdelaziz Bouteflika ne sera plus président dans un mois ou plus tard, nous analyserons cette annonce.
Nous irons aussi à Londres où le Brexit pourrait vraiment se faire sans accord. Les députés ont voté hier soir contre toutes les solutions alternatives au plan de Theresa May.
Et puis, quelle aide financière pour les collectivités qui veulent participer à la transition énergétique? Le gouvernement propose un contrat avec l'État, mais il mise surtout sur l'investissement privé, vous l'entendrez.
À quoi sert un parti politique? La réponse de Frédéric Seyss après ce journal, il nous rejoindra pour son billet politique. Quand les coupures d'électricité à répétition désorganisent un peu plus un pays en crise. Au Venezuela, pays pétrolier, un temps le plus prospère d'Amérique du Sud, les habitants sont désormais régulièrement privés de lumière, de métro, de téléphone, d'internet. La faute aux pannes de courant massives qui se multiplient depuis plusieurs semaines. Sur fond de contestation populaire et de crise politique, le mauvais état des infrastructures a poussé hier le président Nicolas Maduro à changer de ministre de l'énergie. C'est désormais un ingénieur en électricité ayant 25 ans d'expérience. Dans 30 jours, dit le président au Venezuela, les pannes seront oubliées. D'ici là, l'électricité est rationnée et cela perturbe l'alimentation des pompes d'eau potable, affreusement vides en ce moment. Alors les habitants vont là où ils peuvent. Avec eux, notre correspondant Benjamin Delisle s'est rendu près de la montagne Avila, la seule source d'eau potable naturelle près de Caracas.
Après 3 heures d'attente, José Antonio peut enfin placer son bidon sous le mince filet d'eau qui coule d'un tuyau qui sort de la montagne Avila.
Je viens 2 fois par semaine avec 4 bidons de 15 litres.
Il habite un quartier populaire à une dizaine de kilomètres de là, où l'eau manque depuis la première grande coupure d'électricité le 7 mars dernier.
Je n'ai pas d'eau pour cuisiner, pas d'eau pour me laver, je ne peux plus rien faire, rien, tout fout le camp.
Derrière lui, l'autoroute qui borde la villa est bloquée par des milliers de voitures qui attendent leur tour. Selon Soraya, les différentes sources de la montagne sont les dernières qui fournissent de l'eau non contaminée à Caracas.
L'eau de la villa est la plus pure qui soit. Elle est cristalline, elle vient d'en haut, elle est potable. Bref, c'est une eau adaptée à la consommation humaine.
Non loin d'elle, Angélique s'indigne d'en être réduite à sacrifier la journée de ses 3 filles pour l'aider à porter les bidons.
Vous trouvez ça normal que ces enfants qui n'ont même pas 15 ans passent leur journée à chercher de l'eau plutôt que d'être chez eux devant la télé, en train de faire du sport ou n'importe quelle activité extrascolaire? Ce qu'on vit est injuste.
Et rien ne laisse présager d'amélioration alors que José Antonio retire enfin son bidon, le feu de signalisation à quelques mètres s'éteint dans une énième coupure.
Benjamin Delisle, au pays des coupures de courant au Venezuela donc, voilà qui n'apaisera pas la colère populaire alors que le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, pourrait voir son immunité parlementaire levée. La Cour suprême du pays, contrôlée par le régime de Maduro, en a fait la demande hier. La date n'est pas encore fixée, mais la présidence algérienne l'affirme. Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant le 28 avril prochain. Le communiqué promet d'ici là des mesures importantes pour le pays, sans en préciser lesquelles. Ensuite, les chefs, les clés du pouvoir seront données au président du Conseil de la Nation, sorte de Sénat. Il organisera 2 nouvelles élections dans 3 mois. Est-ce assez pour les Algériens qui rejettent, rappelons-le, l'ensemble du système Bouteflika? Non, répond tout simplement Amine, manifestant depuis 1 mois et demi en Algérie.
Pour nous, Bouteflika n'existe pas. Il est mort ou il est vivant, on ne sait pas. S'il est mort ou vivant, pour nous, il n'existe pas. Il démissionne, il ne démissionne pas, c'était pareil. Normalement, il démissionne, ça fait 5 ans, en 2014, parce que la dernière mandat n'était pas présent, ni sur le terrain avec le peuple, ni sur les relations diplomatiques entre les autres pays. Sa démission, elle ne me dit rien. Nous, on attend une démission collective pour tout l'État. Les ministres, on va attendre un changement radical pour tout le gouvernement.
Abdelaziz Bouteflika officiellement donc s'exprime encore et il a promis de partir dans 26 jours au plus tard, je vous le disais. Une stratégie évidemment bien pensée, Nathanaël Charbonnier.
C'est comme aux échecs, chaque coup doit être interprété en fonction de ceux qui sont venus avant et ceux qui restent à venir. Une nouvelle fois, le président Bouteflika tente donc de gagner du temps. Il avait déjà procédé de la même façon lors de sa candidature, avec la lettre envoyée aux Algériens. En annonçant une démission avant le 28 avril, le président sortant entend en tout cas jouer sur trois tableaux. Le premier, c'est l'honneur. En reprenant la main, il peut espérer éviter l'empêchement promis pour cause d'incapacité à gouverner. Le deuxième concerne le camp Bouteflika, la promesse de démission. Lui permet de négocier l'après. On l'a vu ce week-end, des arrestations ont déjà eu lieu de proches, comme celle du patron des patrons. Le troisième, enfin, concerne la transition. En démissionnant, elle repousse la gestion du pays par la haute chambre du Parlement et son président. Le clan Bouteflika qui joue la montre en lâchant petit à petit, miette après miette, le pouvoir qu'il a depuis 20 ans. La balle se retrouve aujourd'hui dans le camp de la rue. C'est elle qui, une nouvelle fois, devra dire si oui ou non elle juge la concession suffisante.
Et déjà ce matin, le chef du FLN, le parti au pouvoir en Algérie, prévient « Nous n'accepterons jamais que le président sorte par la petite porte », a-t-il dit. Abdelaziz Bouteflika, une vie au pouvoir, portrait en photo et vidéo à retrouver ce matin sur franceculture.fr. Cellule de crise à Londres ce mardi, à 10 jours du Brexit. Theresa May va discuter pendant 6 heures au moins avec les principaux ministres du gouvernement pour tenter de sortir de l'impasse. Car si aucun plan ne se dessine d'ici le 12 avril, le Royaume-Uni risque de sortir de l'Union européenne sans aucun accord et pour l'instant, rien ne se dessine. Hier soir, les députés ont de nouveau rejeté les différents scénarios qui leur étaient proposés, Antoine Gignot.
Une nouvelle fois, les scénarios s'écroulent les uns après les autres. Organiser un deuxième référendum, c'est non. La possibilité d'annuler le Brexit, c'est non. Le maintien dans le marché unique, c'est encore non. Seule l'idée d'une union douanière semble un moment capable de rassembler les députés, mais elle est finalement écartée à trois voix près. Mon parti refuse de faire des compromis, lance Nick Bowles, auteur de l'une des propositions qui quitte avec fracas le clan conservateur. Ambiance cour de récréation aussi chez les travailleurs. Jeremy Corbyn tente de réclamer un énième scrutin pour voir si ça ne se passerait pas mieux la prochaine fois. Et pendant ce temps, les Écossais fulminent. Un jour, vous verrez, on prendra notre indépendance. Au milieu des cris et du tohu-bohu, le gouvernement ne change pas de discours et présente toujours l'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles comme la seule alternative à une sortie chaotique de l'Union européenne. Reste à savoir si la Première ministre peut prendre le risque d'organiser un quatrième vote sur son texte, sans déclencher l'explosion du Parlement. Plusieurs dizaines de conservateurs lui demandent désormais ouvertement dans les médias de quitter Downing Street.
Partons maintenant au Sénégal où le président réélu Macky Sall sera investi ce mardi. Il avait promis la fin des bidonvilles dans le pays lors de sa campagne électorale. Promesse tenue ou non ? Eh bien pas vraiment, comme le prouve ce reportage de notre correspondant à Dakar, William Delesseux.
La cité Baraka se trouve enclavée en plein cœur d'un quartier chic de la capitale. Les baraquements, c'est l'origine du nom du quartier. Habib Diallo observe sa femme préparer le repas du soir. L'homme habite ce bidonville depuis sa création en 1984.
On a toujours vécu de manière très difficile. Il n'y a que deux points d'eau pour les 210 familles qui vivent ici. Le quartier est devenu vraiment trop exigu avec les années. Mais bon, on s'en remet à Dieu. C'est la condition humaine qui est ainsi faite.
Il y a deux ans, le président Macky Sall est venu en personne promettre aux habitants des logements neufs, décents et surtout gratuits. Résultat, les travaux ont commencé. Un immeuble est en cours de construction à l'est. Amadou Boysso est vendeur de charbon.
On pensait être d'accord avec les travaux. Mais par contre, ils nous ont fait payer. Ils nous avaient promis que c'était gratuitement et ce n'est pas le cas.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au président ?
Je veux qu'il veille sur ça, qu'il n'a qu'à regarder ce qu'il avait promis à sa population. Lui, à sa bonté, il l'a fait, mais qu'il le termine.
Barik Sek, le président du groupement des habitants, ne croit plus à l'éradication des bidonvilles promises par le président.
Si ça continue dans cette lancée-là, ce qui se passe à Barakla ne peut normalement pas marcher dans les autres bidonvilles. C'est bien que le quartier se transforme, parce que vraiment, le quartier, avec la vue aérienne, c'est comme une plaie sur une personne.
Une plaie comme tant d'autres dans le pays. D'après la Banque mondiale, plus d'un Sénégalais sur trois vit dans un habitat précaire.
William Delesseux depuis Dakar pour France Culture. À l'autre bout du continent africain, sur la côte Est cette fois, notons là que le Mozambique doit faire face à une épidémie de choléra. Deux semaines après le passage du cyclone Idaï, un millier de cas de l'épidémie ont été recensés dans le pays.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal dans les matins. Le parquet de Paris a requis 5 ans de prison ferme contre Bernard Tapie.
Oui, dans l'affaire face au Crédit Lyonnais, grâce auquel l'homme d'affaires avait touché 403 millions d'euros en 2008. Arbitrage truqué, selon le parquet de Paris. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, qui était directeur de cabinet de la ministre de l'économie à l'époque. Stéphane Richard risque, lui, 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Les plaidoiries des avocats débutent aujourd'hui. Ce patron-là est inculpé au Japon pour abus de confiance. Carlos Ghosn est maintenant accusé par Renault de paiement suspect. Le groupe automobile français a fait un signalement à charge indiquant à la justice française un transfert de plusieurs millions d'euros de paiement suspect quand Carlos Ghosn était encore président de Renault. La justice avait déjà ouvert une enquête sur le financement du mariage de Carlos Ghosn au château de Versailles. Le gouvernement cherche une quarantaine de territoires qui voudraient signer avec l'État un contrat de transition écologique. Ce dispositif a été créé l'année dernière pour mettre en place, par exemple, une mobilité propre, des énergies renouvelables ou encore une agriculture biologique. 13 communautés de communes se sont déjà lancées grâce à ce contrat, mais elles manquent de financement car aucune enveloppe n'a été prévue à leur choix.
Les contrats de transition écologique signés entre l'État et par exemple la communauté de communes de Haute-Côte d'Or ou du Pays d'Arras ont bien donné lieu à quelques initiatives, mobilisation des acteurs et forte implication des services de l'État. Nicolas Garnier, le délégué général d'Amorce, la principale association française de collectivités engagée dans la transition écologique, il a suivi de près 7 contrat de ce genre, il tire un premier bilan.
Bien sûr, il s'est passé plein de choses dans ces territoires, mais il s'est passé des choses qui auraient probablement eu lieu de toute façon, puisqu'en réalité, elles ont eu accès au même dispositif auquel ont accès toutes les collectivités locales. Donc, par exemple, vous montez une chaufferie bois, vous avez les aides de l'ADEME. Ces collectivités ont eu les aides de l'ADEME, en priorité certes, mais naturellement. Ces collectivités ont structuré un programme, et ça c'est plutôt sain, mais ensuite, les moyens qui ont été mis à leur disposition sont des moyens de droit commun. Écrire un plan climat, ça coûte un euro par habitant, mais mettre en œuvre un plan climat, ça coûte plutôt jusqu'à 1000 euros par habitant.
Or, aucune enveloppe financière n'accompagne ces CTE. L'État tient à ce que les financements mobilisés viennent, si possible, d'acteurs privés. Selon Amorce, c'est pourtant pour ce genre de contrat que les recettes issues de la taxe carbone auraient dû être utilisées. Nicolas Garnier.
Aujourd'hui, on a raconté une histoire punitive dans laquelle on dit la planète va mal, on vous taxe. Le projet politique, c'est de construire une autre manière de consommer de l'énergie, de protéger notre environnement, tout en créant de l'emploi, en créant les industries de demain. Et pour cela, il faut effectivement que le gouvernement affecte massivement la fiscalité carbone qu'il lève aujourd'hui. Hein, il lève près de 8 milliards d'euros à l'accompagnement des populations dans la rénovation énergétique, etc.
À titre d'exemple, la moitié des 8 milliards d'euros issus de la taxe carbone en 2017 ont été affectés à la baisse du coût du travail.
La transition énergétique encore, il en sera question cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec un débat entre les députés. 2 jours de grand débat national sont prévus aujourd'hui et demain, et ce malgré le scepticisme de l'opposition qui n'y voit pas d'intérêt. Le grand débat, l'énergie et la question des moyens financiers, ce sont encore ces 3 ingrédients qui poussent les associations de consommateurs à mettre en garde le gouvernement. Les prix de l'électricité qui avaient été gelés cet hiver avec la mobilisation des Gilets jaunes, ces prix vont augmenter cet été. On ne peut pas indéfiniment repousser, concède le ministre de la Transition écologique. François de Rugy évoque une possible hausse de 5,9%. En bref encore, France 2 doit ajouter 3 micros pour son débat d'après-demain en vue des élections européennes. Le tribunal administratif de Paris ordonne à la chaîne de télévision d'inviter Benoît Hamon du parti Génération.s, Florian Philippot des Patriotes et François Asselineau de l'UPR. Elle peut aussi, la chaîne de télévision France 2, elle peut aussi leur proposer une autre émission avant le 23 avril. Que fait le gouvernement pour l'autisme en cette journée mondiale? Un an après la présentation d'un plan à 344 millions d'euros sur 5 ans, force est de constater que peu de mesures sont effectives, Maud Calves.
Le gouvernement prévient, avant de passer au concret, il faut d'abord vérifier que tout soit en adéquation avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Quelques avancées concrètes tout de même dans la recherche, avec la création de 10 postes de chef de clinique en pédopsychiatrie, mais aussi dans la détection plus rapide de ce trouble. 30 plateformes d'intervention précoce sont en train d'être sélectionnées avant d'être déployées sur tout le territoire. Pour le volet éducation, 30 nouvelles classes adaptées dans des centres médico-sociaux vont voir le jour à la rentrée prochaine. 6 classes spéciales ont déjà été ouvertes dans des écoles élémentaires ordinaires l'année dernière. Pour la rentrée 2019, il y en aura 10 de plus. Plus d'enseignants spécialisés en soutien aux professeurs également. 50 cette année, le même effectif l'année d'après. Un sondage passera prochainement auprès des familles pour recueillir leurs impressions. Les associations, elles, saluent une bonne intention, mais au vu du nombre de malades sur liste d'attente pour entrer dans des instituts médico-éducatifs, jusqu'à 200 parfois, les actions de ce quatrième plan autisme leur semblent bien insuffisantes.
Au moins 566 personnes sans domicile sont mortes l'année dernière en France, un chiffre sans prétention d'exhaustivité établi par le collectif Les Morts de la Rue. Un hommage leur sera rendu ce mardi à Paris et sur franceculture.fr, un article leur est consacré. Qui sont les morts de la rue? Réponse sur notre site internet. Le temps s'annonce perturbé et déjà d'ailleurs perturbé ce mardi avec un risque d'orage. Et sur quasiment toutes les régions, il va y avoir de la pluie et des grisailles jusqu'à une accalmie prévue en fin de semaine. Ce matin, les températures restent plutôt stables avec 11 degrés à Nantes et Lille, 14 à Paris, 15 degrés à Strasbourg et Lyon, 16 degrés à Nice et sur la Corse.
Merci Clara Lecoq-Réal.